Pierre-Jacques-Onésime Bergeret de Grandcourt. Rome, samedi saint, 2 avril 1774. Il n'y a rien sur notre liste de remarquable pour aujourd'hui. Aussi, comme le temps est précieux, nous avons pris le parti de faire une prompte course à Tivoli, qui est à 6 lieues de Rome. Nous y sommes arrivés à 3h30. Tout le chemin n'est que plaines arides et quelques tombeaux ruinés qui ne sont plus que des masses informes. Il faut monter très haut pour arriver à cette ville que l'on dit contenir 18 000 âmes. On voit au haut, sur la plateforme de la dite ville, la grande cascade qui sert en haut d'abreuvoir et lavoir, et elle tombe ensuite à 50 pieds de bas, ce qui produit une cascade très bruyante et des effets très convenables aux peintres, se trouvant toujours meublés en haut de bestiaux qui vont boire et de femmes qui lavent. Il faut entendre sur cette situation les amateurs de dessins et de peintures. Près de là, autre chose qui se trouve derrière en regardant la cascade. C'est un petit temple rond, dit le temple de la Sibylle, dont il subsiste environ la moitié et entouré de colonnes. Il paraît que les architectes et peintres l'admirent également. Cette situation d'eau et de temple de l'autre côté fait le canevas de tous les dessinateurs et peintres qui passent et ont passé à Rome. Toutes les relations s'étendront sur ce beaucoup plus que moi. Je n'en peux donner une vraie idée qu'en regardant cet endroit comme peintre. Il y a des variétés de dessins à l'infini, et avec des yeux ordinaires, c'est une nature de montagne peu agréable, avec un bruit d'eau continuel, et trop fort, et trop triste, pour pouvoir y habiter continuellement. Mais il est dans la nature des endroits bien houspillés, pourvu qu'il y ait de l'eau et des ruines, de rendre des dessins et effets de peinture qui ornent mieux un cabinet que le tableau de tout endroit symétrisé et plein de régularité. Ce premier coup d'œil nous a occupés jusqu'au dîner à 11h, pour suivre notre projet de réserver 5h pour marcher et voir la ville d'Est, qui est le château de Tivoli. Mais avant de dîner, on a voulu voir au-dessous de cette grande cascade une voûte considérable de montagne, dite la grotte de Neptune. Il faut descendre très mal à son aise jusqu'à 200 pieds, comme l'on peut, et lorsqu'on y est parvenu, non sans quelque danger, on voit des effets et de cavernes et d'eau effrayants et imposants. La curiosité engage à enjamber de pierre en pierre pour voir de nouveaux points de vue, ce qui est fort dangereux, attendu les herbes très glissantes et le tapage effrayant de la chute d'eau. On a de la peine à se déterminer à y descendre, et quand on en est remonté, on se trouve fort content et peu disposé à recommencer. Après notre dîner, nous nous sommes mis en marche à pied pour faire près d'une lieue à tourner la montagne pour aller chercher la façade des petites cascatelles. C'est la chute des eaux produite par la grande cascade. J'avoue que ces petites m'ont fait beaucoup plus d'effet que la grande. Il paraît que tout le monde en est d'accord. C'est encore un canevas de tableaux pittoresques où peu de peintres ont réussi, étant presque impossible de mettre une figure de comparaison pour faire paraître ces cascatelles ce qu'elles sont effectivement, car cette figure telle qu'elle fut serait encore trop grande. C'est une belle horreur, dans le sens d'une belle tragédie, qui cependant fait plaisir à ceux qui aiment ce genre. Le sauvage du pays, les rochers de toute figure sur lesquels tombe l'eau en mille formes variées, les différents effets du soleil à chaque heure, compose est un tout que l'on ne peut guère rendre dans le récit. La peinture y trouve quasi de l'impossibilité, on ne peut qu'inviter à l'aller voir. Au retour de là, nous avions marché 5 heures.